Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver maintenant à 10h04 et 12 secondes, si vous nous rejoignez à l'instant, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invité, c'est le comédien Gérard Jugnot. On parle de cette pièce au Théâtre Édouard VII, Le Jour du Kiwi, pièce très réussie. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Jean Z.
Bonjour.
Et je salue Jean-Luc Lemoine. Bonjour.
Bonjour Monsieur Philippe.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, si je puis me permettre, je trouve que vous avez des petits yeux, on dirait... C'est lui qui m'a écrit ça. On dirait deux petites olives farcies aux anchois.
C'est une jolie métaphore, j'aime bien.
Oh, ouais. Mais vous avez tellement raison, Philippe. Et en plus, vous traitez toujours les bonnes images. Car en effet, j'ai la tête farcie. Mais c'est à cause des enfants. Le pire, c'est que c'est même pas les miens. Toute la semaine dernière, j'ai regardé l'émission qui vous donne envie de faire une vasectomie. Famille nombreuse, la vie en XXL. Non, vraiment, ouais. Ces gens, je vais les admire autant que je les comprends pas. Et pourtant, vous me connaissez, j'adore les enfants, mais pas au point d'en faire 8, hein. Mmh. Au bout d'un moment, c'est de la gourmandise. Alors, pour commencer, j'ai découvert la famille Boisbesseau. 6 enfants.
Mes enfants, ils sont très adeptes des activités manuelles, donc c'est facile de les intéresser. Et aujourd'hui, je pars sur une peinture, une fresque en peinture.
La bonne vieille technique des activités manuelles. Mes parents me faisaient ça aussi. Allez Jean-Luc, ce matin c'est peinture, hein, on va refaire toute la cuisine en jaune moutarde. Et cet après-midi c'est bricolage, on refait la charpente du grenier. Résultat, ils ont refait toute leur maison pour pas un rond. Et moi à 12 ans, j'aurais pu passer 3 CAP dans les métiers du bâtiment. Bon, au final, elle donne quoi cette peinture? Écoutez bien, il y a ce qu'elle dit à ses enfants et après ce qu'elle dit face caméra.
Le résultat, il est canon ou quoi?
Ouais.
Moi je trouve qu'on dirait un tableau de musée.
Je pense que plein de gens trouvent ça horrible.
Pauvre gosse. Si jeune et déjà forcé d'affronter les mensonges de leur maman. C'est pas leur rendre service. Parce que moi, je l'ai bien regardé cette peinture. Elle a rien d'exceptionnel, hein. Aucun sens de la perspective. Une palette de couleurs qui manque cruellement d'originalité. En plus, il dépasse Philippe, hein. Vous et moi, on aurait fait beaucoup mieux. Au cours de cette semaine merveilleuse, j'ai découvert aussi la famille Gonzalez. Alors, 8 enfants et surtout leur maman, Mélanie, au bord de la dépression parce que 3 d'entre eux sont partis en classe verte pendant 5 jours.
Cléo, est-ce que tu veux qu'on regarde sur le blog de l'école si on voit Elio, Malo et Paolo en photo? Tu veux qu'on fasse ça?
Cléo, je lui conseille vraiment de dire oui. Parce que derrière cette question, il y a beaucoup de sous-textes. Tu veux que maman continue de pleurer toute seule dans la cuisine au petit-déj? Tu veux que je te donne un prénom qui ne termine pas en haut et que tu te sentes à l'écart de la famille? C'est vraiment ça que tu veux? Cléo, c'est ce qu'on appelle l'enfant alibi. C'est l'enfant à qui tu demandes de faire une activité pour lui faire plaisir, alors que c'est à toi que tu fais plaisir. Là, c'était regarder le blog de la classe verte.
Ah, Malo!
Un bébé, il a grandi.
Il est tout grand, t'as vu?
Maman,
ils sont partis combien de temps?
Voilà, ça fait déjà 3 jours qu'ils sont partis, quoi.
3 jours. Soit elle a un enfant qui bat tous les records de croissance, parce qu'il a grandi en 3 jours l'enfant, soit on est sur un gros syndrome de manque. Hallucination, délire, manque de sommeil. Moi ça me fait ça quand je vous vois pas pendant plus de 2 jours, Philippe. Sauf que moi j'ai l'impression que vous rapetissez à chaque fois que je vous vois. Il y avait aussi la famille Amerly, 4 enfants. Alors comment vous dire, eux, je sais pas ce qu'ils prennent, mais ça marche du feu de Dieu.
Vous m'aidez ?
Oui !
Vous êtes content d'être au chalet tout le monde ?
Oui !
Qui veut venir de nos poulets ?
On va prendre un petit couteau, vous allez peler l'ail si vous voulez. Hein.
Oui, peler l'ail.
Ils sont enthousiastes.
Ah, mais ouais. Non, mais ces enfants, vous pouvez leur poser n'importe quelle activité, même peler une gousse d'ail, ils sont méga enthousiastes. Que ce soit pour enterrer un voisin, abandonner le chien ou se connecter à Parcoursup et répondre oui en se tension. Bah, non, c'est incroyable. Alors, quelle est donc cette drogue miracle qui rend si heureux les enfants?
Sans compter la fondue, on mange environ 60 kg de fromage par année pour une famille nombreuse.
Et qu'est-ce que vous aimez dans la fondue?
Les fromages.
Et c'est
oui,
ça, la drogue.
Plus besoin de chercher si vous avez affaire à ce qu'on appelle un enfant difficile, shootez-le au fromage. Vous verrez qu'il obéirait à tout ce que vous lui proposez. À 500 grammes, il résiste encore, mais normalement à 2 kg, il bouge plus. Bon, je vous avoue que ça m'a fait du bien de voir toutes ces familles nous jouer la mélodie du bonheur. Parce que moi, j'étais resté sur une ancienne famille star de l'émission, la famille Pélissard, qui témoignait la semaine dernière en TPMP pour parler de sa reconversion dans le X.
Amandine Pélissard et son mari viennent désormais de prendre une décision surprenante, se lancer sur des réseaux sociaux payants d'échanges de photos et de vidéos pornographiques.
Ah bah ça, quand un truc marche, c'est normal, hein, tu fais des séries dérivées. Le préquel, famille XXL, les origines, comment ils ont fait pour avoir 8 mômes. Je sais pas si on voulait l'avoir celle-là. Et donc Cyril Hanouna a posé la question qu'on se pose tous.
Qu'est-ce que vous en dites vos enfants? Parce que vous avez 8 enfants, on peut rappeler de quel âge?
Alors de 17 à 3 ans.
De 17 à 3 ans, donc de 3
enfin,
ans.
Enfin de 3 à 17 du coup.
Bon, le petit de 3 ans, vous lui avez pas
non,
dit?
Non, il s'en fout.
Bah, c'est pas qu'il s'en fout, mais je pense qu'il y a d'autres soucis à 3 ans. Hein, non mais franchement, c'est chaud quand même d'annoncer ça à ses enfants. Moi, je ne vois qu'une seule solution pour faire passer ça, le fromage. Ça vous dit, papa et maman, qui se lancent dans le porno?
Oui.
Allez, bonne raclette à tous.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, à demain. J'annonce, je rappelle que vous serez en spectacle le 3 février, c'est à Biguglia, c'est en Corse. Et évidemment, aujourd'hui, comme chaque jour, de 16h à 18h, avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. Stéphanie Loire, votre indispensable du jour.
Oui, Philou.
De l'ail, du fromage?
Non. De l'ail, du fromage, une raclette et une fondue. Et accessoirement aussi, à l'occasion des 40 ans de la disparition de Louis de Funès, une plongée au cœur des musiques de ses films.
Jean Z, c'est la même question.
Pas de tartiflette, mais le faux retour inattendu de Lara Croft, aventurière iconique des années 90.
Dans un instant, Gérard Jugnot avec nous, on parle de cette pièce, Le jour du kiwi. Mais d'abord, musique avec Hervé sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Gérard Jugnot.
Bonjour Philippe Vandel.
Je vais pas refaire toute votre filmo, comédien, metteur en scène, immense carrière avec des jalons partout, le Splendide, les Bronzés, le Pernod et d'une ordure, plus récemment Astérix, Babysitting, Camping 3, Alibi.com, les Choristes et comme réal de cinéma Monsieur Batignol, 13 millions d'entrées, une époque formidable, meilleur espoir féminin. Et votre actualité, c'est Le jour du kiwi, pièce de Laetitia Colombani au théâtre Édouard VII, pièce formidable que j'ai vue. C'est quoi ce jour du kiwi? Parce qu'en fait, il dure plusieurs jours. Par quoi commencer?
Oui, non, c'est une très très belle pièce, mise en scène par Ladislas Cholak, qui est un très bon metteur en scène, qu'on joue actuellement à Édouard VII. C'est une pièce à la fois très drôle et en même temps pas que, hein, comme on dit, avec des, qui pose des questions. Tout part de ce petit bonhomme qui est inconsolable, un veuf inconsolable, et qui est devenu très rance, hein, très scrogneux, comme on dirait à l'Élysée. Et c'est un personnage qui compte ses sous, qui envoie des lettres de... Enfin, il est vraiment très aigri. Expert comptable, qui fait rien par hasard, qui voit son fils une fois tous les 76 ans comme la comète de Halley. Et d'un seul coup, il y a un truc qui arrive dans sa vie, c'est qu'il découvre qu'on lui a volé un yaourt au kiwi, plus de Nouvelle-Zélande, plus précisément dans son frigo. Et il commence à devenir un peu obsessionnel. Son fils pense, son psy pense aussi qu'il est complètement cinglé. Et puis tout ça va évoluer et faire changer tout le monde, quoi.
Une fois n'est pas coutume au théâtre, il y a une bande annonce.
Bonjour papa, tu t'es fait cambrioler? Non, enfin si, en quelque sorte. Bon papa, on t'a volé quoi? On m'a pris un yaourt, voilà. Un yaourt au kiwi de Nouvelle-Zélande, plus précisément.
Ah merde.
Là, il y a des capteurs infrarouges sensibles à la chaleur dans toutes les pièces. Dès qu'il y a un mouvement, crac, l'alarme. S'il y avait quelqu'un, l'alarme sonnerait.
Bah oui.
Oh, elle ne sonne pas.
Bah non.
Bah, c'est donc qu'il n'y a personne.
Et ben voilà.
Enfin, personne d'humain. On ne vole pas impunément les pips de Barnabé Leroux.
Ça, c'est l'alarme qui se déclenche. On rit beaucoup, on réfléchit aussi. Comment vous décririez Barnabé, votre personnage? Je veux dire, le sens de ma question, il est veuf, il est fâché avec sa belle famille, il voit jamais ou presque son fils. J'aime beaucoup, ses collègues sont fâchés avec lui et lui, il ne parle plus à ses voisins. Il est bougon. Et en même temps, il est extrêmement sympathique. Comment vous l'avez abordé? Parce qu'on a la tendresse pour ce type.
Bah oui, parce qu'il est blessé, quoi. Il est surtout très malheureux. Comme beaucoup de gens méchants ou cons, c'est souvent que la vie leur a pas fait de cadeau, qu'ils n'ont pas fait de cadeau à la vie. Mais oui, il est surtout inconsolable de sa femme qu'il a perdue assez vite, je crois. Et il s'en est beaucoup occupé quand elle était à l'hosto, sans doute. Donc il a délaissé son fils. Et puis il est devenu un peu aigri contre la vie, quoi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Vous savez, quand il y a un grand malheur, où ça vous rend meilleur, ou au contraire, ça vous aigrit profondément. Donc le personnage, il est comme ça, mais on est dans une comédie.
Mais en même temps, généreux et sympathique.
Oui, il est sympathique. Bon. Mais vous savez, moi, c'est le drame, c'est que j'ai joué beaucoup de cons et j'essaie de défendre. On est des avocats, les acteurs.
C'est vrai.
Et donc, il faut que je me méfie, parce que même Ramirez, dans Papé fait la résistance, c'était quasiment sympathique. Il faut faire attention.
On est bien d'accord.
Mais alors, bon, c'est la comédie, quoi.
Il y a une dimension humaine, médicale, parce que c'est une comédie, puis après on pense à Alzheimer, il pense avoir été victime d'un cambriolage de yaourt. C'est quoi? Ça m'a rappelé mon grand-père. Mon grand-père, il disait, il trouvait plus ses lunettes, il disait, on me les a prises. Mais personne ne peut piquer des lunettes de vue qui sont uniques.
C'est pas vrai. Peut-être, on sait pas.
Vous êtes dans le personnage.
Oui,
parce que le personnage, il doute tout le temps de tout.
Oui,
tout le monde est rationnel autour de lui, sauf vous.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas s'il est cinglé ou si c'est la vérité. On va comprendre des choses au fur et à mesure de la pièce. Puis il y a un twist formidable dans la pièce.
Ouais.
Mais moi, j'avais une vieille tante. Nantes, qui était zinzin, hein, ouais. Et qui avait un complexe de persécution, comme ça, qui disait il y a des gens qui viennent, on lui dit mais faut fermer la porte, hein, ferme ta porte. Oui, mais non, parce qu'il passe sous la porte. Donc c'est là où. C'est, ce qui est assez drôle dans ces trucs-là, c'est que ça commence à être un peu crédible, et puis d'un coup, il y a un petit détail qui fait que. Et là, tout porte à croire qu'il y a ce petit détail. Et on ne sait pas encore, on ne sait pas, et ça, la pièce développe ça. Quoi.
Il y a un deal formidable avec votre fils, c'est que vous, l'équipe, vous installe une caméra, lui, vous envoyez chez le médecin, il y a un deal, un bilan médical contre un neurologue, je n'en dis pas plus. Gérard Jugnot, reste avec nous. J'ai parlé de votre fils, on va en parler justement, à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Gérard Jugnot à l'affiche de cette pièce, Le Jour du Kiwi, pièce contemporaine signée Alexia Colombani, qu'on connaît, qui est romancière, notamment La Tresse, best-seller. C'est au théâtre Édouard VII jusqu'au 15 avril. Ça raconte l'histoire de ce Barnabé qui semble perdre la boule et sa famille, son entourage s'inquiète. Vous avez déjà eu peur de perdre la boule ?
Oui, comme tout le monde. Ben, c'est vrai qu'il y a des oublis. Puis après, il y a l'âge. C'est comme les trous au théâtre. Le trou. Moi, j'ai jamais eu vraiment de grands trous terribles où on baisse le rideau. Mais quand j'étais môme, enfin plus jeune, je jouais des pièces. Parfois, j'avais un petit trou et je me disais, bon, ben, c'est un trou.
Ouais.
Dès que tu allais passer 60 piges, tu dis, ça y est, je suis à Alzheimer. C'est juste un problème de perte de confiance. Là, j'ai quand même 1h30 de texte. Mmh. Et alors, de temps en temps, là, il y a 3 jours, j'ai sauté quelques phrases. Il faut retomber sur ses pattes. Heureusement, on n'est pas tout seul.
Et les partenaires, ça va, ça aussi. Ça
les partenaires, et puis eux aussi, ils peuvent aussi perdre les
pédales. Non, mais dans le quotidien.
Dans le quotidien, il m'arrive, oui, de temps en temps, comme tout le monde, je vais dans une pièce, je dis, mais pourquoi je suis venu là ? Ça s'arrive sans arrêt. Mais je crois que c'est pas très très grave. Là, une fois, moi, quand j'ai tourné le petit Piaf, j'ai tourné 3 mois ou 4 mois à La Réunion, je suis rentré chez moi, j'ai eu un problème sur le code de la porte d'entrée. Il a fallu que je regarde, parce que il était plus... Et surtout, moi, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, donc je me souviens de la forme.
Vous savez, le dessin qu'on compose le composant.
Oui, ça c'est je sais pas un numéro de téléphone avec les portables maintenant.
Ah ben, c'est normal.
Ma femme ou mon fils, je le connais pas, c'est terrible.
Ah bah tiens, justement, à propos de porte, à propos de fiston, je sais pas pourquoi j'adore ce moment. Vous êtes chez vous, tout seul évidemment, parce que c'est un veuf bougon. On sonne à la porte, c'est votre fils. Vous lui ouvrez la porte, il dit bonjour papa. Tout le monde applaudit parce que c'est vraiment votre fils. C'est vraiment Arthur.
Oui.
C'est rare qu'au théâtre, on dise bonjour papa, c'est vraiment le papa et le fiston.
Oui, c'est ça qui est à la fois sympathique et troublant. Pour les gens, je crois que ça leur plaît bien, parce qu'en plus, maintenant, Arthur, il a 40 piges, il a fait plein de trucs, il est légitime. Hein. Je l'aurais fait il y a 20 ans, ça aurait été un côté un peu fils de piston.
Parce que vous dites que vous vouliez faire une pièce ensemble que vous ne l'aviez pas trouvée.
Oui, il fallait trouver la bonne pièce, la bonne pièce qui soit à la fois qui nous corresponde et qu'on ait plaisir à jouer. Une belle pièce, ça c'est une très 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 belle pièce.
Comment justement Le Jour du Kiwi est arrivé dans votre vie, dans votre...
Ouais, c'est parce que le producteur qui me l'avait donné il y a assez longtemps, et puis j'avais déjà joué beaucoup de choses, et puis je me suis dit, je vais pas repartir. Moi, quand j'ai beaucoup joué, j'ai pas joué souvent, mais j'ai joué longtemps. J'ai joué 400 fois chez Trésor de Francis Weber. Au bout d'un moment, j'ai plus la santé pour ça, puis ça m'amuse plus, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc là, j'avais pas très envie de jouer très longtemps ces pièces, puis je la connaissais pas bien, et on l'a jouée une fois, il y a 1 an et demi, pour une captation, et on s'est dit, merde, c'est une très très bonne pièce, pourquoi donc on s'est dit, tiens, on va la jouer 100 fois, Édouard VII, en plus qu'il y a un théâtre magnifique, et donc on joue ça jusqu'au 15 avril, et en plus on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Là, c'est Florence Pernel qui a rejoint la troupe, parce que Laetitia, elle faisait son film.
À l'origine, Laetitia Colombani jouait dans cette pièce.
Oui, parce qu'elle est aussi actrice. Mais bon, là, elle n'a pas pu le faire. Et puis bon, c'est un grand théâtre, il faut envoyer. Et Florence n'est pas tendre. En plus, on a développé un peu le personnage de la psy, qui grâce à moi, devient folle aussi.
Parce que déjà, elle est carabinée. Oui. Je reviens à Arthur, c'est comment de jouer avec son fils, à la fois quand on est son père, et à la fois quand on est, pardon de ce compliment, mais vous êtes une légende de la comédie du cinéma français.
Oui, c'est... Oui.
Non, mais si, vous êtes une référence, Junio.
Oui, oui, oui.
C'est, mais... pas, c'est pas deux comédiens de seconde zone. C'est Junio.
Oui, bon, pour lui, je suis pas Junio. Je suis son père qui est parfois... bien, c'est lui qui me donne beaucoup de conseils, souvent aussi, parce qu'il a fait pas mal de mises en scène de théâtre. Donc, on est deux acteurs. Alors, c'est vrai que quand je lui dis mon fils... ou quand il fait papa, ben, je n'ai pas à me dire, tiens, pourquoi il me dit ça.
Je vais vous dire le sens de ma question. C'est un peu perfide, parce que je vous ai entendu dans l'émission En aparté sur Canal, c'était en décembre dernier, et vous dites, c'est compliqué parfois de jouer en famille, s'il fait un truc ou s'il ne joue pas comme j'aurais aimé, ça m'énerve. Alors que si c'était un autre acteur, ça aurait été moins grave.
Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Moi, quand je vais le voir, quand il fait ses spectacles, je vais voir au théâtre, je ne vois que ce qui n'est pas bien. Et c'est nul. C'est comme les parents. Il y a les parents baba, tout ce qu'ils se font leurs enfants, c'est génial. Moi, j'ai tendance à être un peu... j'ai envie que tout soit bien. Donc, quand il fait un truc...
Plus que si c'était un autre collègue.
Ah bah oui. Si un acteur est nul à côté de moi, je dis, bon, il est nul, la prochaine fois... Fois, je ne jouerai plus avec lui, qu'il fasse sa carrière de son côté, qu'il se démerde. Quand c'est votre fils, d'abord, il est formidable dans la pièce, mais surtout, il y a deux, trois moments où il fait des petits tics qui m'énervent, mais exactement comme... puis ça se termine toujours, pas, t'as pas bien rangé ta loge, ou tiens, t'as une tache sur ton pull, t'as mangé comme un cochon. D'ailleurs,
attendez, qui dit ça à l'autre? Qui dit t'as une tache sur ton pull et qui dit t'as mangé ta loge?
Bah, c'est moi qui dis à mon fils, mais il pourrait dire la même chose parce que je mange comme un cochon, mais je range mieux ma loge.
Il y a aussi dans cette pièce un thème, celui de l'incommunicabilité, notamment en ce qui concerne les rapports père-fils, et il y a une résonance avec votre propre vie, parce que vous dites que vous avez réalisé beaucoup de films pour parler à votre père.
Oui, oui, mais c'est vrai que j'ai pas la grande chance que j'ai avec Arthur, c'est qu'il y a une connivence. On se comprend parfaitement puisqu'il fait le même métier que moi, même s'il a fait plein d'autres choses que je n'ai pas faites, comme la magie et la mise en scène de théâtre, directeur de théâtre, ils ont 3 ou 4 théâtres avec ses potes. Donc on est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. On se comprend. On a une super connivence que j'avais pas avec mon père. Donc mon père, il avait peur que je fasse ce métier. Moi, j'ai eu peur un peu quand Arthur l'a fait parce que mon père connaissait pas le métier, moi je le connaissais, donc. Mais je suis vraiment très 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 heureux, très fier de lui parce que d'abord il est super et il fait plein de trucs, il est très heureux dans sa vie professionnelle et donc moi ça me renvoie aussi à l'image que je lui ai donnée sans doute. Il a peut-être vu que j'étais aussi heureux de faire ça, quoi.
Extraordinaire réflexion. Quand on a peur, quand on connaît le métier de comédien, on a peur. Quand on connaît pas le métier de comédien, on a peur aussi. Gérard Junio avec nous.
Mais ça, c'est les parents, ils ont toujours peur.
Mais évidemment. Le jour du kiwi, il reste avec nous. Gérard Junio, on va parler musique, on va parler jeux vidéo. On marque une courte pause. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Le jour du kiwi, pièce avec Gérard Junio et aussi son fils Arthur Junio. C'est à voir sur la scène du théâtre Édouard VII jusqu'au 15 avril, on va parler de musique avec vous, Stéphanie Loire.
Enfin !
On va parler de Louis de Funès. Et juste un mot, vous avez connu Gérard Houry, qui a réalisé, je le cite, Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, Le Corneau, La Folie des Grandeurs. C'était quel genre de bonhomme?
Moi, j'ai tourné dans Le Coup de Parapluie et Fantôme avec Chauffeur, qui n'était pas un grand succès, mais qui est un très joli film écrit par Francis Weber, d'ailleurs. Et oui, c'était quelqu'un de très, très minutieux, très. Il a donné à la comédie le sens du sérieux, enfin, du travail, des moyens. Et c'est quelque chose de très important. Quoi. Ah oui, c'était pas quelqu'un de très drôle dans la vie, mais il avait souvent, les gens qui font de la comédie ne sont pas toujours drôles, il était très très à l'écoute, il cherchait, c'était vraiment un grand travailleur.
Ouais, on raconte que les tournages où on s'amuse, c'est les films dramatiques, et que sur les films comiques, il faut être au cordeau et pas se rater.
C'est une légende. Comme d'autres disent, qui rit au tournage, pleure au montage.
C'est pas ça. Stéphanie Loire.
Oui, bonjour Gérard Junio.
Bonjour.
On célèbre les 40 ans de la disparition de l'acteur Louis de Funès et vous nous proposez un tour d'horizon des bandes originales de ces films, dont des films de Gérard Houry.
Bien sûr. Alors, pour revenir sur le début de l'histoire, après avoir fait se tordre de rire la France entière pendant des décennies, il y a 40 ans, Louis de Funès disparaissait. Il avait 68 ans et c'était des suites d'une crise cardiaque dans son château du Cellier, près de Nantes, où il aimait cultiver ses roses. Alors, dommage que Louis de Funès ne soit plus là, celui qui était d'ailleurs pianiste au début de sa carrière, pianiste de bar. Dommage qu'il ne soit pas là pour voir combien ses films et leurs bandes originales font partie du patrimoine de nos souvenirs et ont marqué marqué notre époque. Pour s'offrir un voyage musical au cœur des comédies de Funès et pour le bonheur des fans, bien sûr, je vous invite à écouter la collection Écouter le cinéma, éditée par Universal Music.
C'est une bonne idée, cette collection.
Dirigée par Stéphane Lerouge. Ouais, c'est une très chouette collection.
Ah, Stéphane Lerouge.
Qui dévoile, à l'occasion des 40 ans de la disparition de Funès, un coffret de 4 CD qui regroupe les plus belles mélodies de ses films. Petite immersion dans la soupe aux choux.
Sans musique. Voilà, on est en France. Allez, cul sec. T'aimes pas le pinard ? Tant pis pour toi.
T'aimes pas le pinard, tant pis pour toi. Le premier compositeur important dans la carrière de Funès, c'est Raymond Lefebvre. C'est lui qui signe le thème du premier gendarme. Il signera plus tard aussi le thème de la soupe aux choux, exactement. Il compose cette fameuse marche des gendarmes qu'on a tous sifflé sous la douche. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, Gérard Jugnot, le matin.
C'est du mal à siffler sous la douche, j'avale de l'eau.
Ne le faites pas, hein, c'est pas recommandé. Dans le bain, c'est mieux. Un véritable tube que Funès a voulu entendre dans tous les épisodes du gendarme, malgré la réticence du compositeur Raymond Lefebvre, qui avait peur que le public se lasse.
Ma biche, ma biche, où êtes-vous, ma biche ?
Moi, je sais plus siffler.
Je suis nul en sifflet.
Moi, je suis très difficile. C'est très difficile.
Venez, on monte une chorale de siffleurs, de sifflets nuls. C'est une super idée, non ?
C'est une super idée pour des salles vides.
Bon, cet air, il colle parfaitement à la musicalité de la gestuelle et des mimiques de Funès. On va arriver en 1971, et là, c'est la BO de La Folie des Grandeurs, dont vous parliez à l'instant, Gérard Jugnot, qui marque les esprits, tout à fait.
Wow.
Gérard Oury, lui, il veut une partition plutôt classique, ambiance 16e siècle, et Paul Naref, lui, il va tailler une partition de cavalcade gorgée de flamenco, de folklore arabo-andalou. Vous savez, c'est le genre de compo sur laquelle on part chercher le sel et le poivre en imitant un cow-boy sur une chaise quand le film passe à la télé. Ça vous dit quelque chose ou pas ?
Monseigneur, il est l'or.
J'adore.
Il a du Morricone.
Oui, je ne savais pas du tout que c'était Paul Naref. Hein.
Ouais, et c'est vrai que c'est très morriconionesque. Je ne sais pas si ça existe le mot, mais enfin
bien sûr.
Parmi les compositeurs qui ont marqué la carrière de Louis de Funès, il y a Vladimir Cosma, celui sans qui le cinéma n'aurait pas le même visage. Il a signé la bande originale du film de Gérard Oury, encore, Les Aventures de Rabbi Jacob. On est en 1973.
Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh !
Rien qu'en entendant la musique, on se marre.
Oui.
Et il y a concours de sifflage, de sifflets, de sifflements.
C'est difficile, c'est difficile de faire de la musique pour des comédies. C'est plus facile de faire de la musique pour des drames, pour des choses
sentimentales. Qu'est-ce que vous demandez à vos compositeurs ?
Souvent mes films sont mélangés. C'est à la fois drôle et puis j'essaye de mettre de l'émotion. Donc c'est plus facile de mettre la musique sur l'émotion que sur le côté guiret. C'est compliqué, la musique gay.
Ce que sait très bien faire d'ailleurs Cosma, c'est un peu sa signature aussi, c'est d'apporter du lyrisme et de l'émotion dans des comédies. C'est d'ailleurs Cosma qui composera les thèmes de L'aile ou la cuisse en 76 et de La Zizanie, toujours signé par Gérard Oury.
Zizanie, non, c'est Claude Zizi.
C'est Claude Zizi. Paf, allez, la honte.
Excusez-moi.
Une perte de crédibilité immédiate. Un film qui réunit De Funès et Annie Girardot. J'ai honte, tu virais ou pas ?
Je suis désolé.
La chance que vous avez, c'est que vous n'êtes pas sa fille, parce que ça aurait été son fils. Ça rigolait pas à table. Mais là, il se dit, bon, c'est pas grave.
Je m'en fous.
Ouais, ouais. Vrai ou pas ? Oh là là.
Ça vous rappelle les souvenirs ?
Oui. Moi, je suis très calé parce que j'ai un ami que vous connaissez, Richard Getch, qui m'a fait une compilation de ces musiques-là, des comédies françaises. Et j'écoute ça souvent, ça me fait rire.
Ah oui,
ouais.
Bon, il a bon goût, ce Richard Gage. En 1964, c'est la comédie policière franco-italienne Fantomas d'André Unbel.
Comment prononcez ça ?
Et je ne me plante pas.
Non.
Mais j'insiste pour ne pas dire de bêtises. Qui est sur les écrans, le compositeur, c'est Michel Magne. Ah. Et il écrit pour Fantomas un swing sombre au trombone, à la façon un peu d'Henri Mancini, le compositeur de La Panthère Rose.
J'adore.
C'est fou comme la musique évoque les images.
Incroyable, hein.
On les voit. On les voit avancer.
On a envie de marcher sur la pointe des pieds aussi. Ouais. Dans cette même bande originale de Fantomas, le compositeur Michel Magne, il s'amuse aussi à créer le thème de l'inspecteur Juve, qui est interprété par Louis de Funès. Et là, ce sont des notes qui vont rester comme un gimmick. Vous savez, cette flûte et ce xylophone, ambiance cartoon.
Ah, Alors, pour reprendre ce que disait Junio, oui. Là, ça donne envie de rigoler. On dirait de la musique drôle.
Oui.
On sent le dessin animé derrière le cartoon.
Il y a beaucoup d'utilisation du jazz-o-flûte.
Ça s'appelle comme ça. Je me suis toujours demandé comment ça s'appelait et où ça s'achetait.
Ben, ça, c'est une sorte de flûte. Il y a une sorte de petite tirette comme ça qui fait...
Mais monsieur, c'est un vrai instrument ou c'est dans les magasins de farce et attrape et on s'en sert pour faire un effet comique?
C'est rarement dans le... chez Wagner, quoi. Oui.
Et ceci dit, c'est une bonne idée, hein, cette rencontre improbable. Ouais.
Non, j'imagine les mecs qui sont à Bayreuth ou à Berlin avec la philharmonie et le mec qui sort le jazz-o-flûte.
Alors que t'attends la troisième de Beethoven. Ouais.
Oui, je vous ai interrompu.
Mais non, mais moi j'attendais.
Merci à tous, merci Stéphane.
Merci beaucoup.
Alors, un, je vous remercie. Voilà. Deux, je vous trouve formidable. Et je salue évidemment Claude Zidi.
Et moi Gérard Horry.
Ouais. Merci Steph, on vous retrouve aux commandes de musique. C'est tous les samedis et tous les dimanches de 16h à 17h. C'était une super idée de parler de musique de film. Georges Junio a apprécié. On va parler jeux vidéo. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On a parlé de théâtre, on a parlé de film, on a parlé de musique de film, on n'est pas encore parlé de jeux vidéo avec Gérard Junio. Bonjour Jean Z.
Bonjour.
Le jeu du kiwi, ça n'existe pas. L'événement de la semaine en jeux vidéo, c'est le retour très attendu de Lara Croft.
Oui, alors c'est aussi ce que je me suis dit quand j'ai reçu le communiqué de presse annonçant le retour de l'aventurière culte des années 90 avec ce beau générique. On parlait de musique, beau souvenir aussi, sauf que la déception fut totale à la lecture du communiqué. Ah. Alors avant de vous dire pourquoi, c'est pas vraiment le retour de Lara Croft que nous allons fêter ce matin. Je vais vous parler de ces petits jeux qui, depuis quelques années, cartonnent à la surprise générale et dont le succès doit beaucoup à ce qu'on appelle les influenceurs, les créateurs de contenu sur Twitch, sur YouTube, etc. Et qui, de temps à autre, jettent leur dévolu sur un titre original, pas un blockbuster, un titre drôle, inattendu ou tout ça à la fois, et des jeux dotés d'un budget souvent modeste. Voilà donc un best-of de ces jeux invités surprise du box-office, du jeu vidéo, des titres qui sont aussi drôles à jouer qu'à regarder, c'est pour ça qu'ils cartonnent sur le web. Exemple, en 2019, avec un jeu qui s'appelle Untitled Goose Game, en français, le jeu de loi sans titre. Alors pourquoi ce titre? C'est le nom complet, hein? Parce que les concepteurs australiens n'ont pas su lui trouver un titre complet. Donc ils l'ont appelé le jeu de loi sans titre. Et le but du jeu, littéralement, emmerder le monde en jouant une loi anglaise. Untitled Goose Game, ça joue sur cette méchanceté bien connue de loi, hein, pour proposer des missions comme tremper le jardinier de la tête aux pieds, enfermer un garçon dans une cabine téléphonique ou faire tomber le vieux monsieur sur les fesses. Voilà, et le tout sur un maximum de discrétion, avec un maximum de discrétion. On est entre Tati le réalisateur et Tati Daniel. C'est vraiment un délice. British, et c'est un gros carton critique et commercial. C'est très beau en plus, il y a vraiment une qualité dessin animé qui est vraiment super. Autre jeu très drôle, mais là on connaît plus en France, c'est une espèce d'interville sauce jeu vidéo, ça s'appelle Fall Guys. Le principe, 60 joueurs s'affrontent sur des mini-jeux jusqu'à ce qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un sous la forme d'un haricot coloré. Il faut par exemple garder son équilibre sur une plateforme à bascule ou le long d'un toboggan glissant. C'est idiot, c'est accessible à tout le monde, c'est génial à regarder.
Parce qu'on est tous des idiots.
Voilà, exactement. Il n'y a pas de vachette, mais Fall Guys, ça a dépassé les 50 millions de joueurs, toutes plateformes confondues, l'an dernier. Et parfois, c'est la musique qui crée le rire et la gloire, hein, sur les internets, comme avec Trombone Champ. On parlait de cette flûte, comment on disait ?
Jazz-o-flûte.
Voilà. Voilà, c'est le Trombone Champ. C'est un jeu de rythme qui vous propose, un peu à la manière de Guitar Hero, eh bien, de jouer avec un trombone, en tout cas de faire semblant de jouer avec un trombone. Moins bien on joue, moins bien on suit les indications sur l'écran.
J'adore.
Plus on joue faux, un exemple donc avec, non pas Wagner, mais la cinquième de Beethoven. C'est dur.
C'est ça. Le jeu regarde à l'endroit où on met notre bras.
Voilà, il y a des indications, il y a des points sur l'écran et il faut appuyer en rythme et au bon endroit à chaque fois. Mais évidemment, c'est très dur. La cinquième, c'est très dur. Hein. Mm. Donc, le jeu est surnommé Prout, donc Trombone Champ. C'est vraiment drôle. Alors, ce qui est drôle, c'est que le jeu est désormais rentabilisé. Et le créateur a même quitté son job, il avait un job d'informaticien, pour se consacrer entièrement à cette œuvre. À la fois, prout et génial.
Ouais, c'est un beau métier. C'est
bien, un beau métier. Ouais,
c'est bien après pour draguer, pour raconter en famille à Noël, tu fais quoi dans la vie. Mais au fait, que vient faire Lara Croft dans cette liste?
Parce qu'elle fera bientôt partie du casting d'un jeu improbable, tout aussi improbable que Fall Guys et les autres. Powerwash Simulator, c'est un simulateur de nettoyage qui réalise un carton surprise. Le but du jeu, laver grâce à un jet haute pression eh bien, tous les lieux, des lieux franchement immondes parfois. La récompense, bah, c'est une propreté parfaite. Voilà, c'est ça la satisfaction visuelle et sonore. Et le 31 janvier, un pack Tomb Raider sera disponible. On pourra laver le manoir de Lara Croft. C'est-à-dire que Croft, eh bien, c'est une aventurière, certes, mais c'est aussi une aristocrate. Crabe. Et on pourra tout nettoyer. Donc à vous le sale boulot dans ce Powerwash Simulator qui sera à coup sûr un carton.
Donc Lara Croft est sale.
En tout cas son manoir.
C'est fou ce que les mecs vont jouer pendant des heures, mais ils passent pas l'aspirateur chez eux. Quoi.
Ah bah, oui, évidemment. C'est ça, c'est ce que je pensais. Oui, je me suis dit, si ça trouve consterné. La part écrasée.
Vous étiez entre la consternation et l'amusement.
Oui,
et...
je suis pas du tout dans ce monde. J'arrive pas, je suis dyslexique. J'arrive pas à jouer à ces jeux, mais je sais qu'en plus en France, on est assez bon en création.
On est même très très bon. Ouais.
Donc je dis vive la France.
On est bien d'accord. Vous restez avec nous, Gérard Jugnot, qui ne sait pas taper le code de sa caméra. Ça, c'est dans la pièce. Ça s'appelle Le Jour du Kiwi. Europe 1, Culture Média, on revient.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gérard Jugnot, le jour du Kiwi. Pièce de Laetitia Colombani, c'est au théâtre Édouard VII, c'est jusqu'au 15 avril. C'est une pièce contemporaine. Est-ce qu'il y a des ajustements? Est-ce que l'auteur vient parfois réécrire des choses
non,
ou pas du
comme
tout.
On avait fait une captation il y a un an et demi, on a réécrit pour l'étoffer un petit peu, surtout sur le rôle du psy, qui est joué par Florence Pernel maintenant, qui est un personnage assez épatant, parce qu'on se demande d'ailleurs pourquoi, le radin comme il est, pourquoi il va chez un psy, donc on donne un peu des clés, et surtout il la rend folle, quoi. C'est ça qui est amusant, elle craque complètement, c'est finalement elle qui va le payer pour l'écouter.
Ah mais racontez pas tout. Autre projet, vous en avez des projets? Il faut dire un mot d'alibi.com. Non, alibi.com 2. Oui. Non, pas alibi2.com, j'allais dire. Pardon, alibi.com 2.
Ça sort le 8 février, je crois.
Film de Philippe Lachaud avec toute sa bande, lui-même, Élodie Fontan, Julien Arrouti, Tarek Boudali. Et dans les guests, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Ariel Dombal et Gérard Jugnot. Vous avez raison, ça sort le 8 février. On entend la bande-annonce et vous nous en parlez.
En fait, ma belle-famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage.
Ah merde. Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père.
Fiston !
C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère.
Complètement folle !
Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé.
Évidemment, les alibis ça sera pas terminé. Vous jouez un escroc qui est le père de Greg.
C'est le vrai père, oui.
Le vrai.
Mais ça me touche beaucoup parce que moi j'étais avec eux dans Babysitting numéro 1 et c'est des bombes formidables. Ils travaillent comme des fous, ils ont plein d'idées, la film il va très loin. Fait pas dans la dentelle parfois, mais on l'a vu à l'Alpe d'Huez, là, c'est un triomphe. À mon avis, ça devrait bien marcher parce que c'est vraiment très très drôle, les gens rient comme des fous et ils sont épatants. Moi je me retrouve beaucoup dans ce groupe, cette famille. Il faut des familles dans ce métier.
Et c'est une famille multigénérationnelle.
Oui, oui. En plus, ils aiment bien les vieux, ce qui me rend.
On reste pas avec sa bande.
Oui, c'est ça qui est sympa, comme nous, d'ailleurs. Nous, on adorait quand Clavier a fait le papy, il y avait aussi Galabru, il y avait aussi Jacques-François, il y avait aussi plein de d'autres générations. Quoi.
Ouais, et des aînés. Vous allez également tourner le tome 2 de Pourri Gâté. C'est un succès incroyable. Il faut raconter son histoire. D'abord, le film sort en salle. Ça a bien marché, ce fut pas non plus un carton, ce ne fut pas un échec, c'est combien de mémoire 500 000 entrées.
Oui, par là, et c'était juste après la fin du Covid, donc c'était...
Mauvaise période.
C'était une mauvaise période, et c'était plutôt pas mal pour l'époque, mais assez décevant. Et puis comme le film avait été acheté par Netflix, ils l'ont balancé sur le Netflix Monde, pas France, pas francophone, et on a fait un carton monstrueux, je crois qu'il y a eu 90 millions d'heures.
Exactement, 90 millions d'heures de visionnage à travers le monde.
Trucs de Bolivie, de Suisse, du Mexique, d'Espagne, enfin bon, c'est dingue.
J'ai noté Albanie aussi.
Oui, c'est dingue. On était premiers dans tous ces pays et le film, du coup, a fait après un carton sur My Canal. Et là, du coup, on va...
Il y a la suite.
On va faire la suite, normalement.
C'est vous qui l'avez produit ?
Non, malheureusement.
Dommage, parce que 90 millions d'heures de visionnage sur Netflix...
Netflix, ils l'ont acheté avant et...
Ah, ils l'ont acheté à pas cher.
Non. Pas cher, mais enfin, c'était pas non plus...
J'ignorais, je l'ai su en préparant cet entretien, à la base, c'était un film mexicain.
C'est un remake d'un film mexicain, mais très très remake.
Voilà, et c'est vous qui l'avez réécrit?
Pas du tout. Non, moi, on a rajouté trois bricoles. Artus aussi a rajouté beaucoup de dialogues. Non, c'est un film de Nicolas Cuche qu'ils ont écrit avec... j'ai un trou sur l'auteur, mais... Non, c'était... Et là, ils sont en train de trouver une suite, et je crois que c'est pas mal. Ils ont trouvé le c'est pas simple.
Racontez le pitch parce qu'il est vraiment génial.
Ah non, c'est un père qui a trois enfants pourri gâtés. C'est un mec qui a du pognon, qui a aussi veuf et qui voit que ça tourne mal pour ses mômes qui deviennent vraiment des pourris quoi. Et il leur fait croire que il est poursuivi par le fisc et qu'il faut qu'il se planque et ils sont obligés de faire la seule chose qu'ils ont jamais fait dans leur vie, travailler. Donc, et puis c'est super bien joué par Artus, Camillo et Luca Malieva et
François Morel.
Et François Morel aussi.
Et Gérard Jugnot. Autre projet à venir, si je suis bien informé, vous terminez un scénario.
Oui, enfin ça.
Oh, c'est quoi cette tête?
Bah non, mais. Il faut
non, après... C'est l'impression que j'ai l'impression que quand vous dites à vos enfants, t'as fini tes devoirs, c'est lundi.
C'est pas ça, c'est qu'après il faut rendre les devoirs et puis il faut être corrigé.
J'ai bien compris que vous étiez dans ce stade-là.
Oui, oui, donc là on commence à. Je crois que c'est pas si mal, mais bon, c'est long. C'est... Puis là, bon, moi, là, j'ai fait un film qui n'a pas trouvé vraiment son public, Le Petit Piaf, que j'aimais beaucoup. Un film très.
Ah oui, j'allais vous demander.
Tout à fait charmant, une petite
tôle. Vous y croyez beaucoup, c'est quelque chose que vous êtes allé tourner à La Réunion, petite tôle.
C'est un film qu'on a tourné il y a longtemps et les gens. Le film est passé un peu inaperçu alors que ceux qui l'ont vu. On a vu le prix du public à justement au festival de la Baule. On a fait un gros succès au My First Festival et puis les gens, ils ont préféré aller voir Avatar. Mais
oui, mais est-ce que alors tiens, c'est une question puisque certains exploitants de salles disent que des gros blockbusters comme Avatar amènent du monde dans les cinémas.
Ah bah, ils sont contents, ils vendent des pop-corn. Hein.
Mais amènent du monde, y compris pour d'autres films.
Non,
et d'autres disent que ça bloque les autres films. J'aimerais bien votre avis.
J'ai l'impression que c'est plus comme avant parce qu'avant, les gens rentraient, allaient voir un film, ils prenaient leur ticket. Si c'était complet, ils allaient voir autre chose. Mmh. Là, maintenant, tout se fait sur Internet. Hein, ils réservent leur place. Donc, s'il n'y a pas de place, ils vont un autre jour. Ils ne vont plus dans les salles. Comme ça, un peu, puis ils se disent, voilà, on verra ça à la télé, puis voilà, quoi. Mais c'est comme ça, ça change, les plateformes changent.
Ouais. Et qu'est-ce que vous
la donnée.
Je rebondis sur le terme que vous avez choisi, qu'est-ce que vous appelez une petite tôle?
Bah, c'est-à-dire que les gens ne sont pas venus, quoi, ou pas beaucoup. Mais ce qui est très rageant souvent, c'est que, bon, vous faites un film raté, bon,
bah,
voilà, c'est raté. Mais là, j'ai reçu, les gens pleuraient dans les salles, le film était assez émouvant, c'est un joli petit film, quoi, pour les familles.
Ouais.
Eh ben, ils ne l'ont pas vu. Eh ben, tant pis pour eux, ils le verront plus tard. Hein.
Vous n'êtes toujours pas sur les réseaux sociaux?
Si, j'ai un peu Instagram. Pour dire des conneries. Ouais, j'aime bien Instagram.
Merci beaucoup, Gérard Jugnot. Votre compte Insta, il s'appelle comment?
Ben, Gérard Jugnot officiel, je crois.
Super. Le jour dit kiwi. Le jour dit kiwi. Non, mais vous auriez pu avoir un pseudo comme un influenceur.
Oui, j'influence peu.
C'est au Théâtre Édouard VII, c'est jusqu'au 15 avril. Un grand, grand merci d'avoir été avec nous. Nous, on va se retrouver demain à 9h pour Culture Média, évidemment. On va parler d'une nouvelle série documentaire de Canal+, ça s'appelle Mouchi. C'est consacré à une affaire criminelle qui avait secoué l'opinion publique aux États-Unis en 2014. Et puis la comédienne Lou Delage et Stéphane Fraisse, qui réalise pour la première fois, c'est un film franco-italien, ça s'appelle Tu choisiras la vie. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Le programme du jour, et d'abord, je vous salue.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe. Est-ce que vous l'écoutez, vous savez, cette petite voix qui parfois susurre quelque chose à votre oreille, vous dit il faut prendre ce chemin-là ou suivre cette voie-là. Est-ce que vous avez un sixième sens? Vous avez l'impression?
Oui, mais il tient en trois lettres.
C'est-à-dire
GPS. Il me dit prends ce chemin-là.
Mais je parle dans la vie aussi de manière plus globale. On va parler aujourd'hui des pouvoirs insoupçonnés de l'intuition.
Ah non, alors
vous avez
de
l'intuition?
Je vais vous dire ce que m'a appris mon papa.
D'accord, ouais.
Mon père, il disait tu réfléchis une minute, tu gagnes une heure. Tu réfléchis une heure, tu gagnes une journée. Tu réfléchis une journée, tu gagnes un an.
C'est pas mal.
De l'intuition, je n'y crois pas. Enfin, si c'est dans mon cas, c'est que des conneries.
On va vous présenter notre invité, le psychanalyste, qui lui a écrit un livre sur ça, qui sera pas d'accord.
Gérard
Fulot,
l'intuition.
L'intuition, il y a que ça qui nous reste dans notre métier.
Ouais.
C'est vrai.
Mais en même temps, c'est comme la superstition. Je crois que c'est Cocteau disait la superstition, c'est l'art de s'accorder avec les coïncidences.
Oh, c'est beau.
Donc,
et les synchronicités, il y a plein de choses qui se passent un peu.
Mais il y a quand même des trucs bizarres.
Ouais. Bah écoutez, on va vous apprendre, Philippe, à la développer.
Votre intuition
dans
on pourrait rester là et discuter une heure
déjà.
Culture
Média
revient demain. À tout de suite sur Europe.